Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Richard Martineau.
Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
Alors, au Palais des congrès de Montréal, du 7 au 19 décembre, va se tenir, bien sûr, la COP 15, c'est-à-dire la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité. On se prépare, hein, le Palais des congrès est entouré d'une clôture de 3 mètres de haut. Il y a des policiers partout, impossible de stationner. Bref, on se prépare aux manifestations qu'il va y avoir. Qu'est-ce que ça mange en hiver, la biodiversité? On va parler de quoi au juste? On va en parler avec M. Simon Joly, directeur à l'Institut de recherche en biologie végétale, chercheur au Jardin botanique de Montréal, le magnifique Jardin botanique de Montréal, aussi professeur à l'Université de Montréal. Bonjour, M. Joly.
Bonjour.
C'est quoi la biodiversité?
Ben, la biodiversité, c'est un peu toute la vie qui nous entoure, donc les espèces, les animaux, les plantes. Mais ça comprend aussi les écosystèmes dans lesquels ils vivent et même ça comprend aussi, on inclut dans la définition de la biodiversité, même les gènes des espèces là, qui sont présents. Donc c'est un peu tout ça, la biodiversité, c'est la vie là, qui nous supporte et qui fait de la Terre, notre belle planète.
OK, mettons, par exemple, on sait, là, on a tous lu des textes là-dessus, des reportages, là, des abeilles, il manque malheureusement d'abeilles. Ça fait partie, ça, des problèmes de la biodiversité, justement?
Ouais, ben là, c'est vrai, il y a beaucoup de rapports qui sont sortis dans les dernières années qui montrent que effectivement, là, la biodiversité est mise à mal. Là, on parle au niveau mondial, là, plus d'un million d'espèces qui sont menacées d'extinction. Il y a d'ailleurs un rapport là, qui est sorti hier même, là, effectué par les gouvernements fédéraux, provinciaux et plusieurs scientifiques, qui s'appelle Espèces sauvages 2020, qui mentionne que ça serait presque une espèce sur 5 au Canada qui serait menacée à certains niveaux là, d'extinction. Puis on a, en plus de ça, un déclin de beaucoup de populations d'animaux et d'insectes et de plantes. Donc oui, la biodiversité n'est pas en un très, très... dans un très bon état en ce moment.
Mais j'ai lu des reportages, j'ai vu des vidéos aussi de gens qui disaient, bon, concernant l'extinction de certaines espèces animales, qu'il y a plein, il y a des milliers d'espèces animales qui sont disparues au cours de l'évolution, là, depuis l'apparition de la vie sur Terre. Là, c'est que c'est normal qu'il y en a qui apparaissent puis qu'il y en a qui disparaissent.
Oui, ça c'est très très vrai, mais ce qu'on est capable d'évaluer aussi, c'est qu'en ce moment, on a un taux d'extinction d'espèces qui est de 10 à 100 fois plus élevé que ce qu'on observe normalement sur Terre. Donc c'est vrai qu'on s'attend à ce qu'il y ait des espèces qui disparaissent, mais en ce moment, on est dans un taux qui est vraiment anormalement élevé, puis c'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle extinction de masse qui peut se comparer et même être supérieure à ce qui s'est passé là, dans les grandes extinctions du passé.
OK, et ça, est-ce que ça peut bouleverser la vie sur Terre? C'est-à-dire que des fois, bon, il y a des espèces animales qui nous paraissent totalement inutiles, puis on dit, bon, on s'en fout si cette espèce-là disparaît, mais on dit, oui, mais si l'espèce disparaît, il va y avoir plus d'insectes, s'il y a plus d'insectes, il va y avoir moins d'affaires, etc. Puis bon, bref, c'est la théorie des dominos.
Bien, c'est beaucoup ça, là, puis souvent, à moins de faire beaucoup d'études sur une espèce, c'est vraiment difficile d'être capable d'estimer l'impact de la perte d'une espèce là, sur les écosystèmes et la vie en général. Il y a certaines espèces qui vont interagir avec plusieurs autres espèces dans leur écosystème. Puis donc, si on l'enlève, ça peut avoir un effet domino justement important sur un grand nombre d'espèces. Souvent, c'est même on les anticipe pas, ces effets-là. Donc, c'est difficile à savoir a priori quelle espèce va avoir la perte de quelle espèce va avoir le plus grand impact sur nos écosystèmes. Mais ce qui est certain, c'est que si on a des très hauts taux d'extinction, la chance qu'on perde des espèces qui soient critiques là, pour les écosystèmes augmente de façon vraiment importante.
Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent, par exemple, lorsqu'on arrête des travaux de construction, je sais pas, une autoroute, puis on arrête tout ça parce qu'on a trouvé 5 renettes à pois quelque part, là, puis les gens disent, on s'en foutu de la renette à pois, elle peut bien disparaître, on s'en sacre totalement. Vous en pensez quoi?
Ben, en fait, c'est justement, je pense qu'en ce moment... ces lois-là qui permettent la préservation des espèces en péril, C'est presque le seul outil qu'on a en ce moment au Canada qui nous permet de vraiment protéger la biodiversité. On aimerait avoir d'autres outils pour pouvoir protéger de plus grands territoires, mais je pense que présentement, c'est l'outil qu'on a qui nous permet de vraiment protéger la biodiversité. Protéger, souvent, il faut comprendre que c'est vrai qu'on parle souvent des espèces emblématiques. On peut parler de la rainette faux-grillon, des
oui,
choses comme
ça.
Mais faut comprendre que ces endroits-là, souvent, ils vivent dans des habitats qui sont vraiment importants puis qui sont vraiment uniques aussi. C'est pour ça qu'on trouve ces espèces-là dans ces habitats. Et donc, c'est l'outil qui nous permet quand même de protéger les habitats. Et on protège pas juste cette espèce-là en faisant ça. On protège toutes les espèces qui les entourent. Donc, c'est vraiment un outil qui est important pour nous permettre de protéger la biodiversité. En ce moment, je dirais qu'on manque d'outils là au niveau légal là pour vraiment pouvoir protéger la biodiversité.
Et ça aussi, j'imagine, dans la biodiversité, il y a la protection des milieux humides.
Ben, ça rentre tout là-dedans. Là. Effectivement, il y a les milieux humides, il y a les milieux marins. Des fois, qu'on a tendance à oublier. Oui, quand on parle de protection de la biodiversité, on sait que c'est objectif, mais c'est vraiment pour l'ensemble des milieux, milieux humides, milieux terrestres, milieux marins, milieux océaniques. Donc, c'est important de protéger des habitats dans l'ensemble de ces écosystèmes.
Donc, la biodiversité, tout ça, là, ça va dans toute la protection de l'environnement en général. Là, on va parler spécifiquement de la biodiversité, mais ça rentre quand même dans toutes les discussions qu'on a ces temps-ci sur comment mieux protéger notre environnement.
Ah, effectivement, puis on a tendance en ce moment de parler beaucoup de changement climatique. Ce qui est très important, mais parfois on a tendance à oublier un petit peu la biodiversité et on la laisse de côté. On protège des petits endroits, des petits parcs, ce qui est bien, mais je pense qu'on doit faire beaucoup plus là, si on veut espérer de protéger vraiment notre nature, parce que c'est sûr qu'on peut investir beaucoup de ressources pour protéger des espèces individuelles. Mais si on protégeait des grandes superficies, ben la nature elle s'occuperait d'elle-même, qu'on n'aurait pas besoin d'investir autant d'efforts pour sauver certaines espèces là qui sont beaucoup plus difficiles à maintenir quand on a seulement des petits parcs ou des petits endroits là qui sont protégés.
Ben c'est ça. Donc il y aurait des aires, des grands parcs qui seraient protégés. Et si on veut voir justement la nature. On prend notre auto électrique, puis on s'en va là, puis on se promène, puis on voit la nature telle quelle. Est-ce que ça serait ça la solution? C'est-à-dire que on peut construire comme on veut en ville, on va avoir des aires protégées où là, la nature va être quasiment sous verre, comme un musée, puis on ira voir la nature, là. Comme on va à la biosphère, par exemple, au jardin botanique.
Ben il y a ça, mais il y a aussi donc il y a différents niveaux là. C'est certain qu'on veut protéger la biodiversité qui est intégrale, mais je pense que la biodiversité a un impact qui est énorme aussi dans nos villes. Donc elle nous rend des services incroyables comme la filtration de l'eau, la rétention de l'eau aussi avec, lorsque des grandes pluies, la filtration de l'air, ça peut réduire la température ambiante. Donc la biodiversité quand même offre des services incroyables dans nos villes. Et d'ailleurs, un des objectifs de la COP15 aussi, c'est de mentionner, donner accès à cette biodiversité-là, même dans les villes, même si c'est certain qu'on n'a pas le même impact là quand on a des plus petits parcs. Mais je pense que l'accès à cette biodiversité, la présence aussi, la protection de la biodiversité partout est importante. Parce que si on fait juste dire, bah, à Montréal, on peut faire ce qu'on veut, on enlève tous les parcs, puis on va protéger ailleurs. Je pense qu'on s'en tirera pas mieux là. Puis on oublie un peu, c'est ça, tous les services que la biodiversité peut nous rendre, même en ville.
Et vous attendez à quoi de la COP15? C'est certain que ça serait pas parfait. C'est certain qu'ils arriveront pas avec des solutions parfaites. Ils vont devoir mettre de l'eau dans leur vin. La politique, c'est l'art du compromis. Mais est-ce que vaut mieux faire ne serait-ce qu'un petit pas dans la bonne direction que pas du tout?
Ben c'est un peu ça. C'est certain qu'on peut être un peu parfois cynique là envers ces engagements, mais ce qu'on souhaite vraiment, c'est que les parties s'entendent pour fixer des objectifs clairs et assez fermes. Puis on a beau être cynique en se disant ça sert à rien, mais à ces personnes-là, je pourrais rappeler que en ce moment, le gouvernement du Québec a protégé 16,9% environ de son territoire, puis les objectifs de la COP10 de 2010 au Japon, c'était de protéger 17% du territoire. Donc, je suis vraiment certain que si l'objectif n'était pas de 17 %, on n'aurait sans doute pas atteint ce niveau-là de protection. Donc, je pense que de se fixer des objectifs très précis, clairs, je pense que c'est vraiment important. Puis, ça donne aussi un outil après pour talonner nos gouvernements, puis essayer de leur demander d'en faire le plus possible pour protéger la biodiversité. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est un enjeu qui est majeur présentement. Dans notre société, puis il faut en faire plus.
En terminant, M. Joly, vous dites de talonner le gouvernement. Oui, c'est bon de faire pression auprès du gouvernement. C'est bon de sensibiliser le public. Il va y avoir des manifestants, puis c'est très correct. On vit en démocratie. Puis c'est bien qu'il y ait des gens qui manifestent en disant, nous, on a ça à cœur, puis c'est important. Mais il y a toujours une gang d'extrémistes. Eux autres veulent mettre fin à la COP15. Là, ils veulent interrompre les discussions de la COP15. Ça sera pas un service à se rendre.
Ben, je pense que non, puis j'ai de la misère à comprendre vraiment leurs objectifs précis de bloquer la COP15. Je pense qu'ils pourraient mettre leurs efforts probablement ailleurs, justement, pour mobiliser la population ou essayer de faire changer les choses, mais c'est ça, on a beau être peut-être cynique envers ces engagements, je pense que ça reste des objectifs qui sont louables. C'est difficile, je sais pas qu'est-ce que les partis vont s'entendre dans le texte final. Mais je pense que ça reste un objectif qui est important là pour nous permettre d'avancer le plus possible, là. Même si c'est clairement pas la seule façon qu'on doit. On doit pas juste attendre la COP15 pour protéger notre biodiversité, mais je pense que ça reste un outil qui est intéressant.
Et vous êtes chercheur en jardin botanique, et je le rappelle toujours, c'est un joyau de Montréal, le jardin botanique. C'est un des plus beaux jardins botaniques au monde, et on devrait être fier de ce jardin-là et aller le visiter régulièrement. Merci beaucoup, M. Simon Joly, directeur à l'Institut de recherche en biologie végétale. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, bonne journée. Merci.